Et j'aimerais donc le titre ce matin de la prédication, c'est « Disciples, serviteurs, ouvriers ». Donc je vous ai parlé de ces choses-là à plusieurs reprises, mais j'aimerais bien qu'on puisse approfondir un petit peu la chose pour voir un petit peu, voilà, on aime bien dire « je suis serviteur de l'Éternel, je suis disciple », voilà, c'est bien, mais en quoi, qu'est-ce que ça implique et puis qu'est-ce que ça provoque dans ma vie concrètement ? Alors le disciple, c'est quoi ? C'est une personne qui reçoit l'enseignement. C'est tout simple. Définition simple. Il y a des définitions compliquées, mais là, c'est simple. Le disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement. Dans le karaté, on a des disciples. Dans tous les arts martiaux, on est disciple du maître. Il y a aussi, dans le domaine de l'artisanat, on va parler plutôt, quelque part, du maître et de l'apprenti. Vous voyez, c'est toujours la même notion. On a quelque chose à apprendre. Et puis ensuite, dans d'autres domaines, on va parler de mon mentor, celui qui me précède. Et dans le domaine spirituel, souvent, on parle de père et mère spirituels. Mais c'est des personnes qui nous précèdent, qui nous accompagnent. Alors le disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement. Et le mot recevoir, c'est quand même quelque chose d'important. Je reçois, j'accepte, j'accueille. Et puis bien, maintenant, c'est là, voilà, j'ai quelque chose à recevoir. Alors on dit qu'on est disciple de Jésus-Christ. Donc, j'ai besoin de recevoir quelque chose de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Alors, premier verset, on va le lire. Jean 13, verset 35. À quoi on reconnaît un disciple ? C'est très clair. C'est Jésus qui parle. On va beaucoup entendre Jésus parler ce matin. C'est à cela que tous reconnaîtront, merci, que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un truc qui est bizarre quand même. Moi, je m'attendrais à, si tu es disciple de Dieu, il faut que tu sois capable de prêcher, que tu sois capable d'enseigner, que tu sois capable de ci, de là, de faire quelques miracles. Et là, Jésus va dire, il dit quoi ? C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si vous lisez vraiment le contexte global, on va parler de l'amour de Dieu qui vit en moi. Et comme il vit en moi, je suis capable d'aimer. Donc on reçoit cet amour. Et tout ça, c'est précédé par une rencontre. Alors on rencontre Jésus, on rencontre l'amour de Dieu. Et là, on a le choix. On dit, Seigneur, voilà, je t'ai rencontré, j'ai entendu parler de toi. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui sauve, ensuite qui transforme et ensuite qui rassemble. C'est la famille de Dieu, d'accord ? Donc, je rencontre, j'entends l'évangile, il y a un travail qui se fait dans mon âme et à un moment donné, il se passe quelque chose. J'ai cette rencontre avec Jésus et puis il y a cet amour qui vient en moi et par amour, je deviens son disciple. Je ne deviens pas le disciple de Jésus juste parce que j'ai envie de faire des miracles. Il y en a qui ont essayé, il y a des magiciens qui ont essayé, qui ont voulu faire comme les disciples. Et ça ne marchait pas. Ils se sont dit, eux, c'est sympa ce qu'ils font, j'aimerais bien faire comme eux, apprenez-moi à faire comme vous. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas disciple de Jésus par intérêt. On est disciple de Jésus parce qu'on a eu cette rencontre et maintenant on désire le suivre. Il y a un profond désir de le suivre. Alors on va aller plus loin. Luc 14, versets 26 à 30. Là, vous allez voir que quand on veut rentrer à l'école de Jésus, recevoir son enseignement, le prix à payer est assez costaud. Si quelqu'un vient à moi, je vais vers Jésus. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Oh, quel verset ! Oh, on n'en parle pas souvent de celui-là. Hein. Mais vous savez, quand Jésus parle, il y avait cette façon de choquer les mentalités. Il disait des choses fortes, mais derrière, il y avait une réalité spirituelle. D'accord ? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de la... Oh, pardon, excusez-moi. Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cette âme a commencé à bâtir et il ne peut achever. » Alors, il balance cette phrase qui est forte, Et il suit par une parabole. Alors Jésus, il avait l'habitude de fonctionner comme ça, et la parabole va cacher une réalité spirituelle pour nous, pour pouvoir comprendre ce qu'il a dit avant. D'accord ? Parce que si tu prends au pied de la lettre le premier verset, tu risques d'avoir de gros problèmes dans ta famille. Mais ce n'est pas du tout le message de Jésus, là. Alors je vous disais, le coût pour suivre Christ est quand même assez élevé. L'entrée à l'école de Christ, eh bien, c'est seulement par son amour. Et ensuite, on va devoir faire des choses. Alors, et que quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc souvent, on prend ce verset en se disant, il y a des problèmes dans la vie et je vais devoir supporter les épreuves, supporter toutes ces choses, j'ai besoin de porter ma croix. Mais vous savez, n'importe qui dans ce monde porte sa croix. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour porter sa croix. On a tous des problèmes, on a tous des situations difficiles et on porte tous notre croix. Ça marche et ça ne t'empêche pas de réussir dans la vie. Tu peux porter ta croix et réussir. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Ça va ? Là, ce que veut dire Jésus, c'est que, eh bien, il y a une question de choisir une nouvelle identité. Choisis ta nouvelle identité. Il faut que tu puisses t'identifier, porter la croix. Qui a porté la croix ? C'est Jésus qui a porté la croix. Porte ta croix, ça veut dire que maintenant, tu t'identifies à Jésus. Tu t'identifies à Jésus avant toute autre chose. Avant même ton éducation, tout ce que tu as pu apprendre. Tu t'identifies à Jésus avant même ton identité nationale. Je suis français, d'origine polonaise. Il y a des gens, ils sont français d'origine polonaise, mais ils sont plus polonais que français, vous voyez. Il y a une des origines qui prédomine. Vous voyez, on est tous un peu comme ça. On s'identifie quelque part. Je me ressens bien dans cette culture-là. C'est moi, ça m'appartient, c'est ce que je suis. Et là, ce que Jésus nous dit, il dit maintenant, il va falloir que tu déposes tout ça, ta culture, toutes ces choses-là, et que tu t'identifies plus à moi que même ta famille, tes amis, ta mère, ton père qui t'ont éduqué, et que tu sois capable de revêtir cette nouvelle identité que je te propose. C'est ce que Jésus dit, en fait. Il ne te dit pas de tout abandonner. Ce qu'il te dit, c'est que tu dois en toi-même être complètement imbibé de moi. Et ce premier verset qu'on n'a pas lu tout entier, c'était « Son amour vient en nous et nous couvre, et là on devient une nouvelle créature. » D'accord ? La deuxième chose. Ensuite, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour ?» On commence une parabole. Et pourquoi on bâtit une tour ? À l'époque, on était là pour... dans un village, on allait construire une tour, c'est pour la protection. Il y avait besoin de pouvoir protéger ce qu'on avait. Et puis voilà, il fallait protéger ce qu'on avait de plus cher pour, eh bien, contre les attaques ennemies. Et là, si Jésus dit ça, il ne dit pas ça par hasard. Il dit maintenant, tu as reçu une richesse, c'est le salut. Tu as reçu une richesse et il faut que tu puisses la protéger. Il faut que tu puisses protéger cette richesse des attaques autour de toi. Parce que si tu, quelque part, si tu ne protèges pas ça, tu auras des problèmes. Mon objectif maintenant, je reçois Christ dans ma vie, je suis touché par son amour, je l'aime, j'ai envie d'être son disciple, eh bien je vais devoir construire une tour pour protéger mon héritage. Ce qui m'importe le plus maintenant, ce n'est pas l'héritage, la maison que papa va me léguer, que tonton Hugo là, va me donner. C'est plus ça qui est important pour toi. C'est j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, j'ai reçu une nouvelle identité, je suis transformé, ça il faut que je le protège. Parce que si je ne protège pas ça, je sens que je peux vite le perdre. Il va falloir que je construise, que je bâtisse ma tour autour de moi. L'objectif, de protéger mon héritage. Donc le disciple a un objectif. La première chose, vous allez voir, qui va nous être dit, s'il veut bâtir. À nouveau, c'est bien, je reconnais Jésus, j'ai entendu parler de lui, l'évangile est là, c'est super, c'est génial, mais est-ce que je désire bâtir ? Il y a une notion ici de collaboration, de vouloir bâtir. Est-ce que je veux vraiment me débarrasser de toutes les choses qui me lient? Est-ce que je veux vraiment me libérer de, eh bien, la cigarette, parce que je suis complètement addict? Est-ce que je veux me libérer de la convoitise? Est-ce que je veux réellement me libérer de toutes ces choses qui me tirent vers le bas? Ça, ça t'appartient. C'est la volonté du disciple qui est mise à contribution. Le vouloir. Le disciple doit être déterminé. Alors, quand tu deviens disciple de Jésus, c'est tout ce que tu vas apprendre. Tu vas apprendre la détermination. Tu vas donner ta vie à Jésus et Dieu va te bénir, tu vas rentrer dans sa grâce, il y a des choses que tu vas abandonner et à un moment donné, tu vas être face à un mur, tu vas dire, mais Seigneur, ça dans ma vie, j'en suis incapable. Et vous voyez, c'est une montagne et on dit que Dieu, par la foi, on peut déplacer les montagnes. Et là, il va dire, maintenant, tu vas escalader la montagne parce que c'est là que tu vas apprendre la détermination. Et là, tu es disciple de Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus a choisi ses disciples, il a prié, il a dit, toi, suis-moi. Il les a appelés et eux, ils ont fait quoi? Ils ont tout abandonné. Il y avait la volonté de le suivre, mais ils ne comprenaient rien, ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais ce désir, et ensuite à chaque fois ils étaient là, mais Jésus, il faudrait faire ci, il faudrait faire cela. Lui, il disait pas grand-chose, mais ils étaient dans ce disciple-là, ils étaient élèves, ils apprenaient, ils voyaient comment ça fonctionnait. La détermination, seul un profond désir de changer, sa façon de vivre, produit un changement intérieur. C'est un désir profond. Ça marche? La détermination. Le vouloir. Alors, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? À un moment donné, tu arrives dans ta vie chrétienne, tu as vécu des choses avec Dieu, et là, tu commences à construire ta tour, et là, tu vas calculer. Tu vas dire, c'est vrai que ma vie avec Dieu, ça me coûte ci, ça me coûte ça. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Je vais calculer. Tu ne suis pas bêtement le Seigneur. Il t'a donné une tête, il t'a donné la capacité de raisonner, il t'a donné la possibilité de choisir. Il va dire, vas-y, calcule maintenant. Calcule. Est-ce que tu es prêt à aller plus loin maintenant? Bon, écoute, tu comprends, Seigneur, maintenant il va falloir venir au culte le dimanche matin parce que c'est là que je reçois un enseignement. Sauf que le dimanche matin, moi, j'avais foot. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais face à un choix. Dieu ne t'impose pas de venir à l'église. L'obligation ne va pas produire en toi le discipulat. Ce n'est pas l'obligation qui va faire de toi un disciple. Mais c'est le désir de suivre, on l'a dit plus tôt. Ben, qu'est-ce que je fais? Là, je vais devoir calculer. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je vais plus loin? Tu as le choix. Est-ce que je continue à bâtir ma tour pour protéger ce que j'ai acquis? Vous me suivez toujours? Il faut être motivé. Est-ce que je suis assez motivé pour aller plus loin? On calcule. Devenir disciple, c'est un coût, un engagement, un sacrifice, du temps. Organise ta vie autour de l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es capable de le faire? Moi, j'ai organisé ma vie autour de l'œuvre de Dieu. Très vite, dès que j'ai accepté Jésus, j'ai tout de suite organisé ma vie autour de l'œuvre de Dieu. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'ai organisé ma vie autour de l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça m'empêche de travailler, d'avoir des enfants, d'avoir des amis et de m'amuser? Ben non, c'est juste une question de calcul. Comment je vais mettre les choses en place? Comment je vais organiser ma vie pour être un bon disciple? Il me faut la détermination, il me faut la motivation, d'accord? Il faut que je puisse calculer, chaque vie est différente. Chaque sacrifice est différent. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Ça appartient aux disciples. D'accord? On lit plus loin. Et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. La première chose, c'est poser les fondements. Il faut commencer. Il faut oser. Là, il y a la notion de mettre la foi en action. Seigneur, tu vois, dans telle situation, là, je suis prêt à m'engager, je vais faire ce sacrifice parce que je crois que vraiment c'est là que je dois aller. Et après, à un moment donné, il faut abandonner le calcul. Parce qu'il y a des gens, ils restent à calculer, ils calculent tout. Ils calculent, mais ils ne font jamais. D'accord? tu restes dans le calcul. Bon, je vais faire comme ça, je vais... À un moment donné, il faut y aller. Tu n'auras pas toutes les réponses. Donc, il faut oser. Et là, tu oses, donc tu mets ta foi en action. La notion de, c'est la première fois, et puis toute ta vie, ça va être comme ça, tu vas mettre ta foi en action. Et ça, ça va être ta fondation. Tu vas fonder les choses sur la foi en Christ. Ça marche ? Souvenez-vous quand, quand Pierre a eu cette révélation et que Jésus a dit « Qui suis-je ?» Et il a dit « Tu es le Christ, tu es le Sauveur. » Et il a dit « Bah maintenant, sur cette pierre, je vais pouvoir bâtir mon Église. » Sur cette révélation, parce que tu me reconnais comme Seigneur, je ne vais pas bâtir sur ton caractère, je ne vais pas bâtir sur tes capacités, je vais bâtir sur le fait que tu as compris que j'étais Christ. D'accord ? Alors, il faut commencer, il faut oser. Il faut oser. C'est Amaury qui est là. Amaury, il a osé la semaine passée. Hein, Amaury ? Ah, ça te gêne hein, quand je fais ça, tout le monde te regarde. Vous voyez, Amaury a osé. Hier, on a vu quelqu'un qui a osé. Il a osé dire, bah, écoute, je ne comprends pas tout. Mais Jésus, je veux vraiment, je désire découvrir, ben je veux oser, je vais faire un pas. Il faut oser. Reste pas bloqué à l'étude de tes projets spirituels. Il y en a beaucoup qui restent bloqués. Moi, je suis resté beaucoup bloqué souvent. J'avais des projets et le temps de réfléchir, ben finalement, c'est passé. Passé à côté, hein. Peu le temps. Je suis resté bloqué. Et le quatrième point qui est important, c'est il ne puisse l'achever, la peur d'achever, et que tous ceux qui le verront ne le mettent en raillerie en disant « L'homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Si tu entames cette démarche avec Christ, l'objectif, c'est d'achever. Sinon, je vais te dire « Commence pas. » La Bible est claire, il vaut mieux être froid que tiède, d'accord ? Il vaut mieux être bouillant que tiède. Si tu commences, t'arrêtes pas. Sois déterminé, sois motivé, parce qu'il faut finir. Parce que tu sais ce que Dieu va récompenser. Il ne va pas récompenser tout le travail que tu as fait au milieu. Il va honorer le travail que tu as fait au milieu, mais il va récompenser l'arrivée. Il va récompenser quand tu vas arriver. Et c'est Paul qui dira, eh bien, il faut que je termine la course. C'est important que je puisse terminer ma course. Ça marche ? Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si c'est difficile pour toi maintenant, dis-toi qu'à la fin, il va y avoir une grande récompense. À la fin, tu vas avoir une joie qui va dépasser tout ce que tu peux. Tu vas avoir la récompense de ton Père. Ça, c'est quand même fort. L'approbation. Dieu est porté sur les fruits et l'accomplissement d'une chose. D'accord ? Donc le disciple est animé par l'amour. Il est capable, le droit d'entrée, c'est quoi le droit d'entrée pour l'école de Jésus ? C'est le renoncement. Ça fait beaucoup, on est déprimé ce matin. Hein ? Renoncement. Il est animé par l'amour, il est capable de renoncement. Il désire profondément suivre Christ, troisième point. Il s'organise, quatrième point, ça c'est le disciple. Il se prépare à suivre Christ. Attention, parce que parfois, il doit aller vite dans sa préparation. Ceux qui ont du mal à partir en vacances avant de faire... Et vous savez, il y a ces genres de personnes qui revoient 52 fois leur bagage pour voir s'ils n'ont rien oublié. Et du coup, ils passent à côté du train. Tu vois, ils sont en retard. Eh bien, je vais te dire une chose. Il y a un moment donné, des fois, il faut savoir se préparer vite. Tu dois être comme un commando, il y a une alerte, il faut être prêt. Les pompiers, ils se préparent très vite. S'il y a un feu, ils descendent autour de la barre, ils s'habillent, ils sont prêts. Il faut être comme des pompiers, il faut savoir se préparer rapidement. Il ose par la foi, cinquièmement. Sixièmement, il termine avec persévérance. Ah, ça c'est le disciple. Ce qu'il a entrepris, il l'achève. Du coup, moi, quand je préparais cette prédication, j'ai regardé ma femme, j'ai dit « Chérie, on a entrepris de construire une maison et il y a plein de finitions !» J'ai pas fini. Et je me dis « Je suis pas un bon disciple. Je dois finir, accomplir ce que j'ai commencé. » Ça marche ? Ça s'applique à toutes les choses de notre vie. Et surtout dans la suite de Christ. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors relis bien ça avec moi. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Moi, je veux être un disciple accompli. Hein. Parce que quand je vois Jésus, ce qu'il était, bah, waouh. L'objectif, c'est l'objectif royaume de Dieu. Objectif royaume de Dieu, c'est savoir se décentrer de soi-même pour contempler Christ, pour pouvoir lui ressembler. Et ça, c'est tout le temps de notre vie chrétienne. On veut être comme notre maître. Alors, qui est le serviteur? On a parlé du disciple. J'apprends à organiser ma vie, j'apprends la persévérance, j'apprends à suivre Christ. Dans les sentiers, il va de ville en ville, je le suis, c'est difficile, je ne comprends pas tout. Mais voilà, je suis là avec lui, j'apprends, la théorie rentre dans ma tête. Alors, le serviteur, lui, eh bien, c'est le disciple accompli, d'accord? C'est le disciple accompli, mais qui se donne. Pourquoi? Parce qu'il est question d'être comme notre maître. On a dit porter sa croix, être comme le maître, ça veut dire être capable maintenant de faire ce que Christ a fait. Le serviteur, lui, est capable de faire ce que Christ a fait. Le disciple, il ressemble à Christ, mais le serviteur, lui, met en pratique. Il est comme Christ au service de l'autre. Ça marche? Alors, quel est l'obstacle à ça? Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu veux servir Dieu en servant tes propres projets, bah, tu peux revoir ta copie. Parce que ce n'est pas être serviteur de Christ. Si tu veux faire des choses dans l'œuvre de Dieu pour être vu et que les gens t'acclament et te disent que c'est génial ce que tu fais, eh bien finalement, ce n'est pas correct. Je cherche, quand je suis serviteur de Christ, je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire au Dieu. C'est le prérequis de base. Prérequis de base. Alors on va se poser la question et on va se dire maintenant, Seigneur, est-ce que dans tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai entrepris avec toi, est-ce que j'ai essayé premièrement de te plaire ou de plaire à celui qui était à côté de moi? Est-ce que j'ai cherché la faveur des autres ou j'ai cherché ta faveur à toi? Alors réfléchis 30 secondes, parce que ça c'est un point important. C'est un point essentiel. C'est le fondement quelque part de qui est le serviteur. Je me décentre de moi-même pour me donner en retour. On est dans une société où tout est centré sur nous, notre bien-être, notre accomplissement personnel, et ceci et cela et machin. On est dans une société actuellement où on se forme beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de séminaires par-ci, par-là, pour pouvoir avancer, aller plus loin, réussir dans tel domaine. Ça veut dire qu'on est finalement les disciples de toutes sortes de choses pour accomplir notre propre volonté. Sauf que dans le royaume de Dieu, je suis le disciple de Christ pour accomplir sa volonté. Mais ça change complètement, en fait. J'accomplis pas ma volonté. J'accomplis la volonté de mon Père. Jean 15, versets 14 à 17. Désolé, ce matin, on lit beaucoup. Vous êtes mes amis. C'est toujours Jésus qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On en revient toujours à cette notion de, voilà, eh bien, maintenant, je passe de serviteur à ami de Dieu. J'ai servi. Vous avez vu les disciples, comment ils étaient? Eh bien, ils fonctionnaient avec Jésus. Jésus faisait des miracles. Et moi, j'ai cette image de, vous vous souvenez de la multiplication des pains. Et là, ils vont être là. Mais Jésus, vous voyez, le disciple, il est discipliné. Hein. Il y a des choses à faire. Et puis, le disciple, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il va voir le besoin. Il va voir ce que Dieu ne fait pas. En fait, le disciple, il voit ce que Dieu ne fait pas. Et ils vont dire, bah, il faudrait nourrir ces gens. Il faut les renvoyer. Il faut les renvoyer maintenant. Il va dire, non. Et il y a ce jeune homme qui va venir et il va dire maintenant, voilà, tac, et il va multiplier les pains. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est encore des disciples, c'est des serviteurs, ils veulent se mettre au service. Mais ils sont limités, ils n'arrivent pas à voir par la, par la, par la vue spirituelle. Il voit par les choses humaines. Le disciple voit les choses humaines. D'accord ? Il voit les choses concrètes. Il voit ce que Dieu ne fait pas. Mais Dieu veut nous appeler à être son ami et à porter du fruit. Et là, on va voir comment. On va voir cette réprimande. 1 Corinthiens, versets 1 à 9. Pourquoi, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. À des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, ah moi je suis Antoine, parce que Antoine, moi je suis Wilfried, parce que Wilfried, moi je suis un tel, parce qu'il est génial. Ben, c'est exactement ça. Je suis Antonia parce que c'est mon ami. Bah, t'es encore un enfant si tu parles comme ça. Et Paul, il va les reprendre en fait. Il va dire, c'est bien, vous avez été sauvés. J'ai accompli ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais vous attachez pas à moi en fait. Moi, je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce donc que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. Selon son travail, récompense, serviteur. Car nous sommes quoi ? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il faut maintenant passer de serviteur à ouvrier. Alors c'est un peu similaire, je vous le concède. Mais si vous voulez, l'ouvrier, lui, va chercher sa récompense. Il ne va pas dire « je suis juste un serviteur, je fais ce que Dieu me demande ». Non, c'est bien. Je suis un serviteur, je fais ce que Dieu me demande, je suis capable de me donner, je me suis discipliné, j'ai discipliné ma vie pour ça, mais j'ai aussi une récompense qui m'attend. Et là, tu es quelqu'un d'accompli spirituellement. Et ça, c'est toute ta vie spirituelle. Ça ne se fait pas en 30 secondes, d'accord ? Luc 10, vous allez voir, important, pareil aussi, un verset qu'on connaît bien. Luc 10, versets 1 à 2. Moi, j'appelle ça l'opération Luc 10. Là, ils sont en formation, nos petits disciples. Ils suivent Jésus et maintenant, il va dire, c'est bon, vous êtes des bons disciples. Maintenant, vous avez commencé à servir dans mon œuvre. Ben, je vais vous envoyer. Il était là, Jésus, il était encore là. Hein. Vous vous souvenez, il a envoyé les disciples encore après. Mais là, il les a envoyés comment ? Ils sont en formation, ils sont apprentis, vous voyez ? Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que pour être un ouvrier, à un moment donné, il n'y a plus de formation. Ça ne sert à rien de faire 40 000 écoles bibliques, la meilleure, celle qui est la plus... Non, à un moment donné, pour être ouvrier, avec Jésus, c'est simple. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Jésus va dire, toi t'es capable, voilà, vous êtes des bons disciples, vous êtes 70, allez hop, venez ici. Et il les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Souvent on dit, ah Jésus, on fait une action d'évangélisation, il n'y a pas machin, il n'y a pas ceci. Ah Seigneur, on fait ci, on va prier, et puis tu pries pour que Dieu envoie des gens qui vont moissonner. Et en fait, au départ, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il cherche ses disciples. Il prend ses disciples et il dit, maintenant vous y allez, et pendant que vous y allez, vous priez, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. On va la refaire parce que tu ne me suis pas. Le disciple, Jésus, il les prend, il dit maintenant, vous, toi Antonia, toi Thierry, toi Alexis, tu vas aller, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, que la moisson est grande, et quand tu vas marcher, tu vas prier. Quand Jésus dit prier, vous savez, ce n'est pas la prière, ah, je vais prier pour toi, hein, et puis tu rentres chez toi. Tu sais, ah, tu as des combats, je vais prier pour toi, vraiment, mon frère, je vais prier pour toi. Puis tu ne pries pas pour lui, en fait, tu vois. Ah, je vais prier pour toi, oui. Quand Jésus dit prier, c'est prier maintenant. Ce n'est pas prier la semaine prochaine. C'est prier maintenant. Priez donc, étant donné qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, priez donc, conséquence, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La parole de Dieu nous dit que c'est à nous de faire des disciples. Mais c'est Dieu qui façonne les ouvriers. Quand tu es disciple serviteur et que tu dis maintenant je vais aller et que tu pries Seigneur, fais de moi un ouvrier. Fais de moi un ouvrier. C'est Dieu qui fait de toi un ouvrier. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton responsable des jeunes, ce n'est pas les anciens qui font de toi un ouvrier, c'est Dieu qui fait de toi un ouvrier. Dans ton travail, là où tu te trouves, quand tu vas commencer à entrer dans cette opération Luc 10, tu vas dire Seigneur, c'est bon, j'ai discipliné ma vie, je désire profondément te servir. Je veux pouvoir me donner comme toi tu t'es donné. Seigneur, je veux pouvoir aimer comme... Et puis tu vois, Dieu te travaille pendant tout ce temps. Et bien maintenant, tu dis, Seigneur, je veux encore aller plus loin. Maintenant, je veux aller chercher les fruits que tu m'appelles à produire. Et là, c'est différent. Là, tu vas commencer à porter du fruit autour de toi. Le disciple et le serviteur, ils travaillent sur eux-mêmes. L'ouvrier, il travaille pour les autres. Il travaille pour le royaume de Dieu. Il travaille dans le royaume de Dieu. Il travaille avec Dieu. Ça marche ? Il y a ce passage aussi qui nous dit où on sait que le disciple, il regarde toujours le futur. Ah, tu sais, quand l'église sera comme ça, qu'il y aura des écrans partout, que tu sais, vraiment, on va être efficace, ben là, les gens vont donner leur vie à Jésus, tu sais. Ah, tu sais, quand la communication sera bien meilleure, ah, tu sais, là, le réveil arrive. Ah, tu sais, quand ceci, ah, tu sais, ils sont toujours dans l'avenir, il y a toujours mieux, il y a toujours, c'est génial. Mais lui, il calcule toujours, tu vois, toujours dans ses calculs. Et c'est ce qu'ils ont fait, les disciples, à un moment donné. Jésus dit, allez, allez dans le champ. Et ils vont dire, mais non, la moisson, c'est dans 4 mois. C'est dans 4 mois, la moisson. Et là, Jésus, il va dire, maintenant, regardez, la moisson, les champs sont déjà blancs. Le disciple, il voit ce que Dieu ne fait pas. L'ouvrier, il voit déjà la moisson. Il voit déjà cette personne qui est interpellée par le Seigneur. Il ne voit pas les 10 qui s'en vont. L'ouvrier, il ouvre ses yeux spirituels. Il dit, là, il y a quelque chose à faire. Il ne voit pas tout ce qui ne va pas, en fait. Ce que Dieu ne fait pas. Il voit ce que Dieu veut faire. Et l'ouvrier, il travaille maintenant. Il n'est pas dans le futur, il est dans le maintenant. Maintenant. Maintenant, la moisson est là. Est-ce que je veux être un ouvrier ? Est-ce que tu veux être un ouvrier ? Ça, c'est la question que tu dois te poser à toi-même. Ça marche ? On mélange souvent le fait que... Vous savez, on parle souvent des ministères dans l'œuvre de Dieu. Et c'est mal compris. Les ministères sont là pour construire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on est là. Donc Alexis, en tant que pasteur, eh bien oui, il doit être disciple, il doit être ouvrier, il doit ceci. Et Alexis, il travaille sur lui-même. Hein. Alexis n'est pas parfait. Et puis, après, qu'est-ce qu'il fait Alexis ? Il est capable de prendre une personne et de dire, voilà, on va travailler sur ça dans ta vie, pour que tu puisses être disciple. Mais c'est toujours avec l'acceptation de la personne. D'accord ? Donc, les ministères sont là, voilà, pour édifier, pour construire l'Église, pour être là, pour être un vis-à-vis, dire, écoute, dans ta vie, il y a ça que tu peux revoir, selon la parole de Dieu. Et après, ils sont ouvriers, on est tous ouvriers. Alexis va pouvoir annoncer l'Évangile dans une réunion, il va pouvoir faire ceci, cela. Mais ça ne veut pas dire que, vous voyez, il y a plusieurs casquettes, en fait, dans l'œuvre de Dieu. Mais après, eh bien, il y a différentes manières d'être un ouvrier. Il n'y a pas que les ministères visibles dans l'Église. Et vous avez Jean qui parlera de ça, il va dire, vous voyez ceux-là, ils prêchent l'Évangile, il se passe des choses, ils ont un bon témoignage, eh bien, il faut qu'on puisse les recevoir. Et il va être écrit à la fin du verset, dans 1 Jean, il va dire, parce qu'on les a accueillis, nous sommes ouvriers avec eux. Donc cette personne, ce qu'elle avait reçu, c'est d'être capable d'accueillir. Peut-être qu'il y a des gens ici, l'hospitalité, vous avez encore du mal. Mais il y en a d'autres, vraiment, ils ont à cœur. Ils accueillent, ils sont capables d'accueillir les choses de Dieu. Ils sont capables d'accueillir, voilà, dans certaines situations. Et ils vont être ouvriers dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas forcément eux qui vont aller dans la rue prêcher l'Évangile. Et là, on parle de cette parabole des talents qui va nous dire quoi ? Bah, tu as reçu un talent, tu as reçu quelque chose. Au lieu de l'enfouir, fais-le valoir. Fais valoir ton héritage. Monte cette forteresse, protège-toi de toutes ces choses qui peuvent te détourner et fais valoir. Il faut que tu fasses valoir. Il faut que ça produise du fruit pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'on est tous dans l'objectif royaume de Dieu, pas dans l'objectif mon ministère. Mais l'objectif, il faut que. Ah, j'ai une belle voix, il faut que je chante à la louange. Très bien, c'est bien, c'est super, c'est génial. En quoi ça concerne l'œuvre de Dieu ? Concerne les choses, enfin, centre les choses sur l'œuvre de Dieu. Et après, je suis maintenant un outil. Ah, j'ai tel talent, tel talent, tel talent. Seigneur, montre-moi comment être un disciple, comment être un serviteur et comment faire valoir ce que tu m'as donné. Maintenant, pas demain. Donc, s'il y a un problème de discipline dans ta vie, revois les choses. Si tu as du mal à être dans cette notion de serviteur, à avoir cet état d'esprit, tu revois ta copie, tu dis, Seigneur, je suis centré sur moi, en fait. Je t'aime et c'est génial, mais en fait, je n'œuvre pas dans ton royaume. Et là, tu vas te poser ces questions-là. Seigneur, j'ai besoin de devenir un ouvrier fidèle, quelqu'un qui porte du fruit. Ça vous va ?